Connaissons-nous les positions de l'Église et leur signification sur la séparation et le divorce? Vous ne pouvez que vous séparer de corps si la vie commune est intolérable. Mais vous restez mariés. Et vous devez prier l'un pour l'autre, si vous avez encore la foi, si vous êtes encore croyant. Voilà. Mais alors, mais c'est affreux. Ben oui, il vaut mieux vous réconcilier. Pourquoi l'Église demande-t-elle de ne pas mener de vie commune avant le mariage sacramentel? Ben parce que vous ne vous êtes rien promis. Il y a une question aussi de vie corporelle et de sexualité. Quand on n'a rien promis à quelqu'un, normalement, on ne couche pas avec cette personne. Et d'autre part, il y a des personnes qui manquent de liberté à cause du concubinage. Ils se disent, bon, je suis avec elle, je suis avec lui, ça va être compliqué de trouver quelqu'un d'autre, je suis pas tout à fait, bon, il y a ça qui va pas, tout ça, mais bon, allez, on va se marier, ça ira mieux. Et le concubinage provoque des attaches, tout à fait même naturelles, mais qui fait que vous êtes dans un tunnel, un peu, pour certains, un couloir. Et il n'y a pas de possibilité de faire de marche arrière. Et... Tandis que lorsqu'on se fait la cour, lorsqu'on se parle, mais qu'on ne vit pas ensemble, on peut encore se dire, bon, est-ce que c'est pour la vie? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Et... Donc, vous voyez, c'est peu dit, hein, mais le concubinage altère la totale liberté du choix. Et... Vous allez me dire, oui, mais alors à quel moment on va se connaître vraiment pour voir si ça va marcher? Mais la psychologie du concubinage n'est pas la psychologie du mariage. On fait des tests. On dit, est-ce que il a un tempérament agréable? Est-ce que il est propre? Est-ce que la salle de bain est comme ci? Est-ce que le machin est comme ça? Mais en fait, voyez-vous, le mariage sera autre chose quand même. Le fait... D'ailleurs, on vous complexe à mort, hein, c'est-à-dire que si vous voulez faire un mariage naturel, religieux, selon la loi divine, on vous dit attention, vous allez vous aimer. Attention, vos enfants, vous ne pourrez pas vous permettre le luxe de ne pas les éduquer ensemble. C'est une blessure aux enfants. Mais non, il n'y a pas de problème. Il y a des familles recomposées, ils sont très heureux. D'ailleurs, dans les films, ils nous le présentent toujours et c'est super. On vous dit, non, le bonheur le plus plaigné sera que le papa et la maman vivent ensemble et s'occupent de leurs enfants. Mais pas seulement jusqu'à 10 ans, pas seulement jusqu'à 18, et même pas seulement jusqu'à 30. Parce que des enfants qui voient leurs parents divorcer à 70 ans, eh ben, même s'ils sont plus sous le toit des parents, ben, il y a quelque chose. Donc je vous avais prévenu, hein, c'est du moralisme à puissance 10. Hein, mais voilà, je ne peux pas ne pas vous le dire. Est-ce au nom d'un code moral, d'une sagesse humaine, pour aider chacun à se choisir? Est-ce dans l'attente de l'engagement du Christ dans le sacrement de mariage? Mais j'insiste, et vous l'avez peut-être bien discerné dans tout ce que je vous dis, même des non-chrétiens sont dans un mariage indissoluble. Même des musulmans sont dans un mariage indissoluble. Leur premier mariage. Et s'ils n'ont pas une volonté farouche et première d'être polygames, leur première femme est leur femme. Parce que la nature humaine est ainsi faite. On aime. Regardez les Turcs. Ils sont musulmans. Vous avez beaucoup de polygames dans les pays, en Turquie. C'est totalement tombé en désuétude. Ils sont presque tous monogames, les Turcs. C'est très intéressant de voir des pays musulmans qui ont totalement perdu la polygamie. Comment envisageons-nous la régulation des naissances? Bon, tarte à la crème de la préparation de mariage dans la Sainte Église catholique. Voyez-vous ? Quels sont nos désirs et nos craintes ? Avons-nous le désir de nous informer et de nous former pour vivre nos choix de la façon la plus responsable dans ce domaine ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Avons-nous pu envisager le cas d'avoir un enfant en... Ah, là c'est autre chose. Bon. Si donc c'est la contraception. Eh bien dans la Sainte Église catholique, il n'y a aucune contraception. Point barre. Et oui, mais vous avez des discussions en ce moment, paraît-il, au Vatican, à l'Institut Pontifical sur la vie, il y a des théologiens qui disent ceci ou cela, pipeau, hérétique. C'est... Non, 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 il n'y a pas de contraception dans la loi naturelle et dans la vie naturelle. Mais c'est affreux ce que vous nous dites. On va avoir 17 enfants comme les parents de Sainte Bernadette, de Sainte Catherine de Labourée, ça va pas la tête. Ah, mais de nos jours, la science s'est développée, et donc vous pouvez, d'une manière naturelle, et essayer de savoir quand vous êtes, il y a une ovulation, hein, quand il y a un ovule qui se balade, et alors à ce moment-là, on a déjà 3 enfants, alors ben, je sais pas, fais des pompes, hein. Voilà. Et ça va te fatiguer, et voilà. Bon. Mais pendant 10 jours, hein, parce que et puis en plus, grâce à la méthode Billings, je vais savoir si la glaire va, comment dire, produite facilite ou non l'évolution ou la sélection des spermatozoïdes. Vous voyez ? Donc ce qui fait que ça montre qu'on est en état de fécondité ou pas. Hein ? Donc vous allez prendre un petit cahier et 1, 2, 3, là jusqu'à 30 jours, etc. Glaire solide, glaire liquide, température 37, 37,2, 37, voilà. Oh là là, mon Dieu, voilà. Alors, c'est affreux ce que je vous dis, hein, mais vous avez des bons, très bons catholiques qui vont vous apprendre la méthode, les méthodes naturelles, mais au point que vous aurez peut-être 0,5% de risque d'avoir un enfant. Et l'horreur, l'enfant. Je vais manger votre budget, je vais manger votre accession à la propriété. C'est affreux. Oui, mais c'est ça. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de présenter de manière comique parce que j'en ai par-dessus la tête. Et donc, mais vous avez des gens très sérieux à la communauté d'Emmanuel qui vont vous présenter la méthode Billings, tout ça, pour pas avoir d'enfant, voilà. Si, petit, bah, c'est une méthode, c'est une mentalité contraceptive qui finit par arriver. L'enfant, c'est le danger. L'enfant, c'est la pauvreté. L'enfant, c'est le déménagement. Vous voyez ? C'est ça. Donc la pilule, c'est le salut. Vous voyez ? Bon. Là, en ce moment, avec les thromboses, les AVC, puis les cancers à 50 ans. Bon. Ah non, ça, monsieur l'abbé, mon père, c'est des arguments courus, quoi. Ah, ben peut-être, ça peut être bien. Bon. En tout cas, sachez que Paul VI a eu le courage en 1968 de dire que c'est contre nature de s'empêcher d'avoir des enfants. Au passage, le stérilet est abortif, hein, c'est-à-dire que l'enfant est conçu, il se dépose, il nide, la nidation, et avec le stérilet, ça va provoquer la destruction de la nidation, et l'enfant passe. Oh, il a 5, 10 jours, 20 jours, hein, c'est pas très grave. Seulement, nous avons tous eu 5 jours, 10 jours. Oui. Donc, le stérilet est abortif. Hein. Mais bon, comme on n'en est pas tout à fait conscient, on a un doute, c'est pas comme un avortement. Oui. Mais bon, ça y ressemble beaucoup. Et en tout cas, on est tranquille. Oui, on n'a pas d'enfant. Oui. Mais alors, ce qui est dur, c'est d'avoir un enfant avec le stérilet. En général, l'enfant se prend le métal, le machin, enfin c'est pas drôle du tout. Vous voyez ? Mais voilà, l'Église vous dit ne péchez pas. Ah oui, mais on a peur, on a peur, on a peur. Voilà. Et oui. Donc je vous l'ai dit. Attendez, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette question? Voilà. Oui, non, c'est suffisant, je pense. Vous le saviez. Je charge votre conscience. Peut-être que tout le monde vous dira, de toute façon, hein, cause toujours l'Église. Nous, on fait nos affaires. Sachez que non. Et Dieu connaît mieux votre nature que vous. Avons-nous envisagé le cas d'avoir un enfant handicapé physique ou mental? Et pas plus tard que ce matin, je passe devant un café et je vois un trisomique d'une trentaine d'années attablé à la brasserie, qui était là et qui avait commandé une bière où il était tout seul à la table d'une brasserie. Et je me suis dit, ah ben dis donc, il fait partie des 5% de survivants des trisomies. Parce que je peux vous assurer que dès que, avec un diagnostic prénatal, on détecte la trisomie chez un enfant, vous pouvez avorter jusqu'à 8 mois et demi, hein, il n'y a aucun problème. Bon, on le coupe en morceaux, hein, parce que à 8 mois et demi, c'est hein. Mais pour cause de maladie, je crois que les délais sont jusqu'au terme, quoi. Ce serait plus simple de lui tirer une balle à la tête, à mon avis, ou de l'étouffer, mais voyez-vous, c'est assez impressionnant. Alors, quand vous avez des enfants qui ont... comment ça c'est la mucoviscidose, le téléthon. C'est la mucoviscidose. Donc, pourquoi l'Église catholique a maintenant dit aux chrétiens de ne plus donner au téléthon? Parce que toute une partie de la recherche, c'est le diagnostic préimplantatoire de la PMA. Hein, mais je vous ai dit, même la PMA entre un couple marié et stérile est contre nature. Parce que les quatre enfants que vous allez féconder, on les met ensuite dans la femme, et tu t'accroches, je m'accroche pas... si cette tentative marche pas, on en met 4 à nouveau. Je crois qu'au bout de la 4e tentative, s'il y a 16 morts, on s'arrête un peu. Mais si vous voulez, on peut réessayer plus tard. C'est ça la procréation médicalement assistée. Et là, pour le coup, si vous voulez, on fait un test préimplantatoire. S'il y a un risque que l'enfant ait la mucoviscidose, dès que l'embryon se développe un peu, on prélève une cellule. Bon, il y a une chance sur deux pour qu'il crève, hein, mais bon, c'est les risques. On en prélève d'un autre. On finit, il y a bien un qui va survivre à tout ce qu'on fait en laboratoire. Et on fait un test ADN. Il n'a pas la mucoviscidose. On peut le mettre dans le ventre de la mère. Vous voyez ? C'est l'eugénisme à l'état pur. Vous voyez ? Et là, moi, quelqu'un de très gentil, très, m'a dit, mais mon père, c'est bien, je faisais pas de l'humour et j'essaye de moi en faire sur cette question. Mais vous vous rendez compte un peu de ce que c'est que la vie d'un enfant qui a la mucoviscidose? Il va mourir à 20 ans, à 22 ans. On va devoir lui pomper ses glaires pendant toute son enfance. Et ce à quoi je réponds, mais, alors que je suis en bonne santé et que j'ai pas eu de maladie, eh bien, la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Et même malade, une âme peut être heureuse. Et ça, c'est un vrai combat actuellement. Mais vous voyez, c'est impressionnant de voir aussi des familles, vous allez me dire, complètement inconscientes. Il y a un enfant qui était hydrocéphale. Alors hydrocéphale, c'est vous avez l'eau dans le cerveau qui est trop importante et une pression. Vous avez toute la calotte crânienne qui se développe à cause de cette pression et vous avez un enfant qui a une tête énorme. Il y a un enfant comme ça, des chirurgiens honnêtes ou plus ou moins honnêtes, on fait des opérations pour que cet enfant une trépanation, réduction du crâne, et cet enfant a fini par mourir à 5 ans. Voyez. Mais il faut voir comment les parents, les frères et sœurs aimaient leur frère. Mais de nos jours, c'est pas possible. Mère Teresa, elle a commencé ses orphelinats avec les enfants non viables. Elle prenait tous les enfants non viables des hôpitaux. Et elle les prenait dans ses orphelinats. Et ils vivaient 2 mois, 5 mois. Et ils étaient entourés d'amour pendant tous ces temps-là. Parce qu'ils étaient la plupart du temps abandonnés. En plus, c'est une malédiction, hein, par rapport aux brahmanes, aux intouchables, tout ça. Si l'enfant est malade, c'est que c'est son karma. Il a un mauvais karma et qu'il meurt le plus vite possible. Mais pas pour une chrétienne. Pas pour Mère Teresa. Et donc, tout cela, voyez-vous, je dois vous le dire ensuite, comme ça vous l'aurez entendu. Et pas seulement à la télévision de manière, caricaturale. Voilà. Avons-nous pu envisager le cas de stérilité? Alors moi, je connais plusieurs couples stériles sur mes 18 ans de sacerdoce. Voilà. Il y a des couples qui le portent bien dans leur amour mutuel, qui est le mariage. D'autres adoptent et sont très patients. D'autres adoptent à l'étranger pour aller plus vite. C'est plus difficile, hein. Moi, je connais un couple comme ça qui allait systématiquement en Colombie. Il y avait une possibilité plus rapide. Et si vous voulez, les petits-enfants sont des petits Colombiens très marqués, voyez, et donc il y aura toujours l'apprentissage du fait que les parents ne ressemblent pas aux enfants, hein, et les enfants n'ont pas aux parents. Mais l'amour peut compenser cette différence, hein, bien sûr. Mais l'adoption doit être toujours bien réfléchie et ensuite assumée jusqu'au bout. Moi, je connais des parents qui ont adopté 2 Chinoises, mais 2 Chinoises à 1 mois et 2 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a peu de... Je connais des personnes qui ont adopté des enfants à 3 ans, qui étaient dans des orphelinats extrêmement durs, et des enfants qui ont toujours eu des souffrances de leurs souvenirs, des brimades épouvantables qu'ils avaient dans leur orphelinat. Je ne vous précise pas le pays exprès. Eh bien, les 2 petites Chinoises, à 1 mois, enfin, elles n'ont connu que leurs parents adoptifs. Eh bien, bing, à 20 ans, il y en a une qui a explosé. Vous n'êtes pas mes parents, parce que d'abord, moi j'ai une tête de chinoise et vous n'avez pas une tête de chinois. Alors que, franchement, elle n'a jamais connu la Chine, elle n'a jamais connu ses parents. Et ils les ont entourés d'amour et tout ça. Enfin, c'est difficile. D'autres, aucun problème. Les enfants adoptés, noirs, les parents blancs, de l'amour, et aucun complexe d'adoption. Bon, de toute façon, quand on adopte, on est toujours accompagné par des personnes qui nous aident profondément. Et puis, je connais des couples qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Et d'autres qui vont être tellement torturés par cette absence d'enfant, surtout pour la femme. C'est le mari, vous savez, je vous dis, hein, comme par rapport à la théorie du genre, hein, y a une différence entre l'homme et la femme. L'homme extériorise moins ses sentiments. J'en suis persuadé. Mais il en a. Et donc, un homme qui ne peut pas avoir d'enfant... Bon, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant l'exprimera différemment, mais il y a des souffrances. Eh bien, voyez-vous, c'est dur à ce moment-là d'être catholique. Parce que tous les médecins vous disent « Tu pètes !» Oui. Parce qu'en pipette homologue, c'est semence du mari dans la pièce à côté, les ovules de la femme extraits, loup, clop, ah, non, ah, il est mort. Vous pouvez hein, dans 3 jours, hein, pour que ça soit plus frais, enfin, et voilà, donc, et plip, vous voyez. C'est, et là, qu'est-ce que vous dit la religion? Eh bien, l'acte sexuel est toujours entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de médecin, il n'y a personne. Ah, mais c'est dur, parce que ce serait si facile d'avoir un enfant à nous. Oui, alors, l'acte personnel, et si vous mettez de côté cette réalité qui est pourtant importante, ben n'oubliez pas que on ne pourra jamais, du premier coup, avoir un enfant avec la semence du mari et un ovule, tic, sans danger, 100%, pas de mortalité, top dans la femme, il s'accroche et tout va bien. Non. Il y aura forcément des morts. Voilà. Avez-vous pu envisager le cas de stérilité? Que représenterait pour vous la possibilité d'adopter? Qu'aimerais-je apporter à nos enfants? On verra plus tard l'éducation des enfants. Et alors là, donc voilà, excusez-moi, c'est forcément plus lourd ce que je vous dis, mais je ne peux pas ne pas vous le dire. Vous l'entendez de manière caricaturale partout, à la télévision, à la radio, partout, mais que vous puissiez entendre ce que vous dit l'Église catholique à un moment donné, au moins, dans une préparation au mariage, il faut l'avoir dit. Fécondité des cœurs. Quel témoignage de notre amour en couple voudrions-nous donner? Accueil, ouverture aux autres, joie, équilibre. Qu'aimerions-nous transmettre aux autres? Donc là, c'est au-delà, hein. Sommes-nous déjà engagés dans des œuvres au service des autres? Envisageons-nous cela en couple? Quelles pourraient être les attentes de la société pour notre couple? Oui. Les attentes de l'Église, paroisse, mouvement. Et là, on atteint la 5e séance et votre vie religieuse. On va développer à ce moment-là. Donc la 6e séance sera la rencontre avec un couple, conseiller conjugal. Et donc, je vous ferai aussi un peu, je vous livrerai dans la 5e séance un peu mon expérience des enfants. Parce que c'est amusant, vous allez me dire, vous avez des enfants. Si vous voulez, on traverse tant de vies. On voit tant d'enfants différents. Voyez, on accompagne tant d'enfants, tant d'adolescents. Et quand des personnes se confessent en vérité, on connaît leur vie. On ne connaît pas ce qu'un père, une mère, un grand-père, une grand-mère croient savoir de leur enfant. En confession, il y a des personnes qui se livrent totalement. Voyez. C'est pour ça d'ailleurs que les anticléricaux détestent les prêtres. Parce que quand un prêtre est équilibré et bon, il peut être vraiment extraordinaire à cause de son expérience. Parce qu'il connaît le point de vue du papa, de la maman, des enfants, de la grand-mère, des oncles, des tantes. Il a une connaissance de la famille que vous n'aurez jamais. Parce que les gens ne se livrent pas totalement. Vos enfants ne vous disent pas toujours ce qu'ils vivent. Mais il y a des personnes qui nous disent tout. Et c'est d'où l'importance pour nous de garder le secret par rapport à telle histoire personnelle, mais ensuite nous de faire la synthèse d'une psychologie humaine et des différentes personnalités d'ailleurs. D'où dans cette 5e séance la prochaine fois l'importance aussi de la religion, voyez, par rapport au fait d'avoir confiance. Vous voyez, je tape un peu trop sur les psychologues, les psychiatres, qui sont des médecins. C'est plus pointu, hein, parce qu'ils ont le droit d'utiliser des médicaments. Seuls les psychiatres. Et les psychanalystes, alors là, pour trouver un psychanalyste équilibré qui a du bon sens, c'est plus difficile à cause de certaines théories. Mais voyez-vous, pour tirer la couverture à la religion, n'est-ce pas? Quand vous trouvez un sage, un prêtre qui imprégné de l'amour de son prochain et de l'amour des âmes, c'est une occasion extraordinaire. Imaginez ceux qui ont vécu dans le village d'Ars et qui avaient le saint curé d'Ars comme curé. Il devait avoir justement tant de bons conseils, de bons... Combien de personnes il a dû consoler, encourager, fortifier par la pureté de son intention. Voilà, voilà. Bon, c'est écrasant. La prochaine fois, est-ce que vous oserez poser des questions et réagir à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent? On essaiera de faire un petit quart d'heure où vous réagirez un peu, ou alors c'est uniquement cours magistral, vous en prenez plein la tête, vous dites bon, vous faites le tri ensuite chez vous. Voilà. En tout cas, vous avez toutes ces questions qui sont là à réfléchir et à repenser. N'oublions pas qu'à un autre moment, voyez-vous, pour préparer le mariage, pour préparer le livret du mariage et autres, on se rencontrera individuellement ou en couple, et on sera en lien avec le prêtre qui vous marie. Parce que le prêtre qui vous marie doit quand même un peu vous connaître, j'espère. Et donc, la préparation du livret, les choix des textes pour la messe en français, là, je laisserai ce prêtre plus agir. Hein. Et donc, on se coordonnera pour cela. Dans la messe traditionnelle, vous n'avez pas le choix. Et c'est assez mystique.